Bonjour Johan Sfar.
Bonjour.
Vous publiez le tome 7 de votre série de BD phare Le chat du rabbin, un tome intitulé La tour de Babel-Oued. Nous sommes toujours à Alger au début du siècle. La mosquée, la synagogue, l'église sont inondées. L'imam, le curé et le rabbin Sfar se verraient bien prier ensemble de façon œcuménique, mais les fidèles ne le voient pas ainsi. C'est une façon de parler de notre présent.
C'est de l'hyper-réalisme. Enfin, je le fais pas exprès. J'essaie de réveiller mon chat parce qu'il a toujours des choses à me raconter. Et comme il regarde l'espèce humaine un petit peu comme ça en biais, il comprend pas pourquoi on n'arrive pas à se mettre d'accord. J'essaie de raconter ça avec pas trop de naïveté, mais quand même. Et là, j'ai voulu montrer des prêtres qui font de leur mieux. C'est-à-dire un imam, un rabbin, un curé qui ont bien envie que tout le monde prie ensemble. Mais du coup, c'est les fidèles qui veulent pas. Et qu'est-ce qu'on fait quand la base suit pas? Bah, c'est compliqué.
Cette fois-ci, le chat, votre chat, il n'a pas vraiment le beau rôle, hein, parce
non.
que lui-même, il n'est pas très accueillant avec les petits chats de la mosquée.
Non, tout le sujet de l'album, c'est la générosité et l'accueil, qui est un thème religieux par excellence. Et on voit bien dans les trois grandes religions que ça marche dès que c'est théorique. Quand on va dans la pratique, ça devient plus compliqué. Donc, les réfugiés dans cet album, ce sont des chatons. Le chat leur refuse l'entrée de chez lui en disant « on ne peut pas accueillir tous les ronrons du monde ». Et évidemment, mon chat se comporte comme un animal, il défend son territoire, il essaye de tout ça, et petit à petit, il va se rendre compte que c'est peut-être pas la meilleure attitude à avoir.
C'est un tome que vous avez écrit, composé, dessiné après l'attentat de Charlie Hebdo?
Ça, c'était déjà celui d'avant, le tome 6, qui était très sombre. Je l'avais commencé à le faire, il y a eu les tueries de Charlie, et je me suis interrompu pour faire de la bande dessinée autobiographique, parce que l'imaginaire ne servait plus momentanément à me rassurer ou à me faire du bien. Et là, retrouver un ton de conte de fées, retrouver une manière d'enchanter un peu des souvenirs maghrébins dans un quotidien qui est un petit peu désastreux, bah, c'est un jeu d'équilibriste entre les souvenirs de ma grand-mère, donc d'une Algérie un peu inventée, et ce qu'on a aujourd'hui de relations entre l'Orient et l'Occident, où on essaye de nous survendre une guerre de civilisation et où les individus font de leur mieux pour survivre à ça. Donc c'est un peu de l'équilibriste. J'essaie quand même de faire des bandes dessinées joyeuses. Je voudrais pas faire des bandes dessinées complètement niaises. Donc quand un truc fait mal, je le mets dans les dessins et je laisse faire le chat. Je me dis qu'il va un peu adoucir les choses.
Là, elle est quand même, le ton, est, en tout cas au début, est assez pessimiste.
Je sais pas. Il y a des personnages quand même assez attachants, même les méchants. C'est-à-dire qu'il y a autant les deux prêtres normaux sont ultra sympas, autant les deux vieux prêtres sont assez bas du front et assez têtus. Mais même eux, quand ils sont entre eux et ils se disent « Ah, quel dommage qu'on n'ait pas la même religion », parce qu'ils sont aussi intolérants l'un que l'autre et ils s'entendent très bien entre vieux intolérants.
Et alors, qui est le Malka? Enfin, on l'avait déjà vu dans d'autres tomes hein, de la série, mais le Malka au lion, qui est ce personnage un peu à la fois, on dirait que c'est un peu Dieu ou un peu un clochard céleste.
Oui, il a un quatrième culte. En fait, il y a trois grandes religions. Et puis, il y a le conteur qui est toujours ivre. C'est lui. C'est le Malka des lions. Et même lui, il trouve pas d'histoire à raconter pour tout apaiser. Et alors, il a des projets un peu extrêmes. Il dit, tiens, quand il y a une tragédie, ils se rassemblent, ces gens. Alors, à un moment, il kidnappe un enfant. Et là, tout le monde est copain pendant que l'enfant... Et ça me rappelle malheureusement le lendemain des tueries de Charlie où tout le monde était rassemblé, tout le monde était copain. Ça a duré 3 jours. Donc, ce serait formidable qu'on réussisse à être amis à d'autres moments qu'au lendemain des tragédies. Mais ça parle un peu de ça, le livre.
Là, donc, c'est donc ce tome 7, hein, la tour de Babel-Oued, évidemment. C'est un jeu de mots sur la tour de Babel.
Oui, et une parabole assez étrange dans la Bible, la tour de Babel, c'est le moment où Dieu est pas très sympathique, puisque quand les hommes s'entendent trop bien, parlent la même langue et construisent une trop haute maison, il leur invente plein de langues différentes en espérant qu'ils se disputent. Et ça questionne aussi la personnalité qu'on donne au bon Dieu quand on se parle de lui. Et je crois que c'est une question que se posent les prêtres tous les jours. Qu'est-ce qu'ils vont transmettre comme visage de la religion?
Vous-même, vous lisez beaucoup, Johan Sfar, vous avez beaucoup de lectures presque théologiques ou pas?
Non, à cause de ce chat du rabbin. J'ai pas arrêté de rencontrer plein de prêtres depuis que ça existe. Alors, de toutes les religions qui viennent me voir, qui sont tous très sympathiques. À chaque fois que je leur dis que je suis pas croyant, ils me disent, mais ce qui nous intéresse, c'est le doute. Ou alors, parfois, ils me disent, ça viendra. Et toujours est-il que j'ai pas arrêté de rencontrer des braves types parmi ces prêtres. Et j'étais assez surpris parce que moi-même, je suis très anticlérical. Et je me dis que si les prêtres sont des gens sympas, ça doit être que c'est au niveau des fidèles qu'il y a un truc qui va pas. Donc, c'est un peu de ça que je parle.
Johan Sfar. Merci. On rappelle que le tome 7 de la série du chat du rabbin, La tour de Babel-Oued, vient de paraître chez Dargaud.